coup, je vois la mer dont on m'avait parlé, et je me dis, mais c'est cette mer dont on m'a parlé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'intuition qu'il s'agissait d'elle. Je vais m'asseoir sur un divan, j'attends. La lumière décline, parce que le jour décliné, donc une des accueillantes va allumer. Et tout d'un coup, la pièce est inondée par la clarté électrique. Mais les vitres de l'espace deviennent alors réfléchissants, puisque la ruelle était sombre. Et j'ai vu cette chose étonnante, j'ai vu la mère ne pas s'adresser à l'enfant auquel elle était censée parler, mais à s'adresser à l'image de l'enfant dans le miroir, dans la vitre qui lui réfléchissait. Et j'ai compris alors pourquoi l'enfant réagissait mal aux propos de la mère. C'est parce que les propos ne lui étaient pas adressés. Et depuis, alors, dans d'autres lieux et dans l'espace rencontre spécialisée que j'anime, où là on met en confrontation des parents psychotiques ou borderline, des parents très difficiles et des enfants, j'ai demandé à ce qu'il y ait un miroir en pied. Et je m'aperçois que très fréquemment, certains parents s'adressent davantage à l'image de leur enfant qu'à leur enfant réel. Ça entraîne des débordements chez l'enfant redoutables quand il perçoit qu'on ne lui adresse pas la parole qu'on lui énonce. C'est très douloureux et très difficile. Ça expose l'enfant à des angoisses dépressives massives. Le sentiment continue d'exister et lié à cette époque où l'enfant a perçu dans le regard de sa mère, comme il était habitué à le percevoir de façon générale, une part du réel. Mais cette part qu'il perçoit tout d'un coup, c'est la sienne. Et quand cette part n'est pas investie par la mère d'une représentation idéale, l'enfant en est plus ou moins fragilisé et il sera plus ou moins exposé ultérieurement aux troubles dépressifs. Enfin vient le père, il fallait bien qu'il vienne, et la fonction paternelle. Le père arrive quand l'enfant renonce à être l'objet du désir de sa mère. Quand il perçoit qu'il ne l'est pas et qu'un autre a cet objet. La révolution que ça va entraîner, la révolution psychique, c'est une révolution qu'on a pu évoquer en termes d'être et d'avoir. Tant qu'il est dans le lien étroit à la mère, il est miné par l'idée d'être ou n'être pas l'objet du désir de sa mère. Et puis quand il renonce à être l'objet du désir de sa mère, en lui s'incruste l'obsession d'avoir ou n'avoir pas l'objet du désir de sa mère. Et la position d'avoir ou n'avoir pas l'objet du désir de sa mère est une position qui le minimise, qui est responsable de son enculturation. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être la racine même de notre pulsion grégaire que d'être obsédé par avoir l'objet du désir de l'autre. Vous savez, Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, a pour la première fois noté cette évidence: l'humain est le seul animal à ne pas désirer les objets en fonction du besoin qu'il en a, mais simplement parce que d'autres les désirent. Ce qui nous fait désirer les objets, ce n'est pas tant le besoin qu'on en a, mais le fait que d'autres humains le désirent. C'est avoir l'objet du désir de l'autre. Je vous en donne une illustration qui me fait sourire terriblement puisque je circule surtout en vélo. Paris est le département de France où il y a le plus d'immatriculations 4x4. Pour gravir la montagne Sainte-Geneviève ou ne pas s'embourber dans le Montparnasse, il faudra qu'on m'explique l'utilité. Si les 4x4 sont à ce point prisés, et surtout, il faut le dire, par des quinquagénaires féminines, je vous le dis en connaissance de cause, pour circuler beaucoup entre les 4x4 et à vélo, je note qu'il a quand même une signification phallique de prestance, de pouvoir à Paris. Je ne sais pas dans les régions où il peut être utile. mais c'est avoir l'objet du désir de l'autre. S'il n'était pas convoité par autrui, et d'ailleurs il cesse de l'être un peu moins puisque les valeurs écologiques montent, il est un peu moins prisé. C'est l'objet du désir de l'autre. Ça nous fait sourire et en même temps c'est à l'origine de notre pulsion grégaire. Tout d'un coup on soumet son faire aux exigences de la norme. Et avec le complexe paternel arrive ce moment où l'enfant intègre que son faire est soumis aux exigences du groupe, de la communauté, de la morale, de la norme. Ce qu'il convient de faire et non pas ce qu'il convient d'être. Et c'est une révolution parce que ça lui permet d'être acteur. Et quand il s'écarte de ce qu'il convient de faire, il éprouve des angoisses de castration. Et la figure paternelle a vocation à lui signifier ce qu'il convient de faire et à le rassurer quand il s'en écarte un peu trop. En fait, la présence en soi des parents contient chez l'enfant un certain nombre d'angoisses. Et c'est pourquoi de ce passé commun des relations à nos parents, nous tirons des éléments d'armature psychique interne qui font barrage à certaines de nos angoisses. Les angoisses de néantisation psychotique, qu'on dit aussi les angoisses de mort, qu'on appelle les angoisses de mort, qui peuvent survenir en chacun d'entre nous. C'est pas l'angoisse de mort, la peur de mourir. C'est même peut-être l'inverse. C'est suscité par le désir de mourir. C'est le désir de lâcher prise. Vivre exige en nous de la pugnacité, de l'acharnement, de l'emprise. Et nous avons tous quelquefois la tentation de nous laisser partir. D'être sans exister, de ne pas nous réunir, d'être dispersés. Ces angoisses de néantisation sont réactives à la pulsion de mort. Quand elles adviennent, on tire de la présence en soi de la représentation maternelle les éléments capables de nous en soulager de ces angoisses et de cette pulsion de mort. De la même manière, les angoisses dépressives ont besoin, pour être apaisées, d'être contenues dans une représentation de l'amour maternel, de la continuité du soin maternel. Je travaille avec des personnes confrontées à des maladies, à une maladie particulièrement éprouvante, le cancer. Le cancer est éprouvant surtout dans des formes métastasées, dans le risque létal qu'il induit. La plupart des personnes qui y sont confrontées se rappellent à ce moment-là la mère qu'ils ont eue, soit pour me dire qu'ils n'en ont pas été suffisamment aimés, soit qu'ils en ont été suffisamment comblés et qu'ils tirent de ces relations précoces la certitude qu'ils survivront. Mais c'est souvent la mère qui est évoquée. Et de façon étonnante, quelquefois, j'ai à l'esprit cette patiente que je suis, femme de 60 ans, qui est atteinte d'un cancer du pancréas. Donc un cancer gravissime. On lui a d'ailleurs dit très élégamment qu'elle ne passerait pas l'année. On l'a décrochée de toute humanité en lui disant qu'elle était mortelle. Ce que chacun sait, mais chacun oublie. Elle, on lui affirme, on lui met quelque chose. Donc elle a décidé, la seule chose qui lui était possible, c'est de revenir sur son passé. Et elle a tiré de son passé quelque chose qui la rassure beaucoup au moment où elle va partir. Elle a un passé, c'est le suivant. Elle a toujours pensé avoir été haïe par sa mère, très maltraitée par sa mère. Elle est d'une famille juive. Ses deux parents sont arrivés en France dans les années 45, unique rescapé d'une grande famille du ghetto de Varsovie. Sa mère ne l'a jamais aimée, me disait-elle au début où je la rencontrais. Elle se parle à elle-même, hein, je ne fais rien, j'écoute. Sa mère ne m'a jamais aimée, ma mère ne m'a jamais aimée, c'est ce qu'elle me dit plusieurs fois, plusieurs rencontres. Et puis finalement, à force de m'en parler, à force de se rappeler la manière dont sa mère la mettait à distance, elle a réalisé ce qui s'était passé chez sa mère. En fait, sa mère avait perdu tous les siens, tous ses proches, ses oncles, ses tantes, ses frères, ses sœurs, ses parents. Tous ceux auxquels elle s'était attachée avaient été détruits, et elle voulait préserver cet enfant. Et pour la préserver, il ne fallait pas qu'elle s'y attache, parce que ceux auxquels elle pouvait s'attacher étaient marqués comme du sceau d'une funeste fatalité. Et cette femme, 60 ans après, comprend ce qui a poussé sa mère à vouloir la mettre à distance, et tire de cette haine, amour de sa mère, des éléments capables de lui faire supporter la certitude qu'elle va mourir. Ça la ramène à de l'humanité. Et elle tire de cet amour maternel sous une forme travestie un énorme réconfort. La confrontation aux angoisses dépressives actualise en nous la permanence maternelle. La confrontation aux angoisses névrotiques actualise en nous la présence paternelle, quel que soit notre âge. Quand ces présences, ces figures sont tronquées ou insuffisantes, l'enfant est mis en difficulté. Alors, comment est-il mis en difficulté ? Faute d'être contenu, il va avoir tendance à se contenir lui-même. Et un enfant qui n'est pas suffisamment épargné de ses angoisses par la présence en lui de figures de sécurité, de figures parentales de sécurité, aura tendance à contenir ses pulsions. Les pulsions sont à l'origine de nos angoisses. Un enfant qui craint ses plus angoisses parce qu'il n'a pas en lui de permanence parentale suffisamment sécurisante, de figure parentale de sécurité, aura tendance à les contenir. Il va avoir alors un mouvement de continence psychique. Il va bloquer en lui toute son impulsivité. Cette façon de bloquer en soi toute relation à son monde intérieur, c'est le mouvement à l'origine même de la dépression. La dépression, ça n'a d'ailleurs pas d'autre signification que ce rapport de contenance, de continence psychique. Le dépressif adulte, par exemple, s'isole d'autrui. Mais il s'isole d'autrui pourquoi ? Pour échapper à la relation à soi. L'humain est ainsi bâti que la conscience de soi n'est possible que par la médiation de la conscience de l'autre sur soi. Se couper de l'autre, c'est surtout et essentiellement motivé par la volonté de se couper de soi. L'enfant procède différemment pour contenir son impulsivité et contenir toute relation à sa boîte noire. Il va dans un mouvement, d'abord, essayer d'inhiber la pensée. C'est les formes inhibitrices de la dépression qui dominent en lui. Inhiber la pensée, parce que la pensée donne accès à sa boîte noire. La pensée n'est pas la réflexion. La réflexion, c'est la partie consciente de la pensée. La pensée se déroule en moi sans qu'il puisse quelque chose. C'est une forme continue d'association. Si je veux me couper de moi, je me coupe de mes pensées, j'inhibe ma pensée. Et notamment la pensée analogique, les liens qui peuvent se faire en moi de façon spontanée. Le problème, c'est que quand l'enfant opère de la sorte, quand il inhibe sa pensée pour ne pas être en contact avec lui, avec son monde intérieur, il inhibe aussi toutes ses capacités d'apprentissage. Parce que pour apprendre, pour retenir une information, il faut pouvoir l'associer à une autre précédemment acquise. Ce n'est qu'un lien associatif qui permet de mémoriser. Il n'y a pas d'autre mémoire qu'une mémoire analogique. La mémoire logique est une mémoire qui fonctionne très rapidement. Elle n'installe pas les choses durablement. Pour pouvoir retenir une information, il faut pouvoir l'accrocher à une autre qui était précédemment stockée. Sinon, l'information tournoie dans la tête sans qu'on puisse lui trouver une case ou la ranger. C'est pourquoi les adolescents disent que ça leur prend la tête quelquefois, les informations qu'on leur assène. Une information a besoin, pour être retenue, d'être associée à une autre qui précédait. L'enfant qui n'est pas capable d'associer, parce qu'il inhibe sa pensée, est incapable d'apprendre. Je vous en donne une illustration. La plus jeune de mes filles était en CM1 un jour, son instinct me dit: oh, Bérénice est brillante historienne, elle a retenu tous les noms des reines de France. et des rois de France. Je m'étonne un peu et je souris beaucoup. En fait, c'était pas du tout l'intérêt pour l'histoire qui faisait que ma fille retenait les rois et les reines. C'est le goût qu'elle avait pour les contes de fées. Elle est très petite fille et très coincée dans les contes de fées. Donc les histoires de rois et de reines, ça lui faisait plaisir. C'était comme des contes qu'on lui racontait et donc elle retenait. Elle retenait sur ce mode. L'enseignante n'a pas su pourquoi Bérénice retenait ce qui lui était conté. Elle a retenu simplement que ma fille était bonne en histoire. Comme elle a regardé ma fille comme une fille excellente en histoire, elle en a convaincu ma fille, qui depuis est convaincue qu'elle est bonne en histoire. Et aujourd'hui, elle est en première S, mais continue à être excellente en histoire. L'association libre de l'enfant aux informations qu'on lui livre est nécessaire pour qu'il les retienne. Quand il n'en a pas d'association et qu'il inhibe sa pensée, il ne peut pas retenir. C'est les enfants dépressifs qui vont apprendre avec sérieux et ne pas retenir ce qu'il leur est enseigné. C'est des enfants qui vont faire copie de page et de page de façon attentive, en tirant la langue avec beaucoup de préciosité, mais qui ne sont pas capables de retenir ce qui leur a été enseigné. C'est des enfants qu'on qualifie facilement de benêts. C'est des enfants qui aussi, bien sûr, inhibent leur imagination. On le voit très facilement en entretien. Vous avez des enfants qui, dès qu'on leur suggère un jeu, se mettent à bondir sur l'opportunité qui leur est offerte de libérer leur imaginaire et le font sans résistance aucune. Et puis d'autres sont très coincés. J'ai ainsi eu longtemps, moins maintenant parce que c'est passé de mode, mais pendant longtemps j'avais un bâton sur mon bureau et je disais aux enfants qui venaient m'y trouver, voilà, c'est Harry Potter qui a oublié sa baguette. Donc certains s'en saisissaient, je leur demandais ce qu'ils allaient en faire et me racontaient, oui, je transforme ma maîtresse en petite araignée que j'écrase avec mon pied. Et puis d'autres étaient là avec la baguette, terrorisés par ce qu'ils leur proposaient, effondrés. C'était des enfants dépressifs. Certains enfants, quand je leur propose de dessiner, ont pas 3 ans qui sont là avec le crayon à s'acharner. Oui, tu comprends, il y a des extraterrestres qui viennent et qui attaquent la Terre, mais il y a celui-ci qui vient sauver la Terre, et puis moi je suis avec mon père et je sauve la Terre avec mon père, et ils s'acharnent à me faire des dessins auxquels ils sont seuls, à se représenter, mais sans se soucier de ce qu'ils font. Et puis vous en avez d'autres qui tirent la langue, qui me regardent, attentifs à ne pas déborder. Ceux-là, je me dis, c'est des enfants dépressifs. Les enfants qui bloquent leur imaginaire vont vite se couper de leur alter ego, puisque les enfants adorent jouer. Mais ils adorent jouer en prenant au sérieux leur jeu. Il faut être authentique quand on joue avec un enfant. C'est pourquoi peu d'adultes sont capables de le faire. On s'étonne toujours que certains psychothérapeutes soient très inefficaces avec des enfants. C'est les psychothérapeutes qui ne sont pas capables d'être autre chose que psychothérapeutes. Parce que quand un enfant vous dit « on joue aux gendarmes », il ne faut pas être un psychothérapeute qui joue aux gendarmes. Parce que l'enfant le repère de suite. Il faut être un gendarme. Et s'il vous dit d'être voleur, il faut être un voleur. Et puis vous vous rappellerez quand même, avant la fin de la séance, que vous êtes un peu psychothérapeute. Mais si vous restez un psychothérapeute qui est gendarme ou un psychothérapeute qui est voleur, ça ne marche pas. Mais avec les enfants dépressifs, ça ne marche pas davantage avec les autres, parce qu'ils n'arrivent jamais à se couler dans les personnages qu'on leur propose d'interpréter. Ils ne sont jamais capables d'être dans le rôle qu'on leur assigne. Donc des enfants coupés d'autrui, des enfants qui manquent d'imagination, des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, des enfants dépressifs. Et les enfants le sont parce qu'ils se contiennent tout seuls, sans avoir le confort de leurs parents, l'assistance de figures parentales internes. Et puis vous avez l'autre face de la pièce, le défaut d'assistance de figures parentales internes, c'est les enfants hyperactifs. C'est la face qui alterne la continence, l'incontinence à la continence. L'enfant impulsif et l'enfant qui n'a pas su contenir. Après avoir souvent essayé de le faire, d'ailleurs, et les enfants hyperactifs ont souvent eu des périodes dépressives qui précédaient. C'est des figures alternées de la précédente. les enfants hyperactifs. C'est ceux qui mettent la pensée après avoir mis l'action. L'exemple le plus pathétique de ces enfants hyperactifs, je ne le tire pas des gazettes modernes, mais des Malheurs de Sophie, c'est Sophie. Sophie est un exemple archétypé de l'enfant hyperactif. Sophie est en difficulté d'être avec elle-même. D'abord, elle s'ennuie. L'ennui est souvent le symptôme de la difficulté d'être en écho avec soi, en relation avec soi. Les gens qui s'ennuient sont des gens qui sont en difficile relation avec eux-mêmes. Quand on est en bonne intelligence avec soi et qu'on est en contact avec ce monde intérieur, on s'ennuie beaucoup moins que quand on ne l'est pas. C'est pourquoi les créatifs s'ennuient quand même généralement moins que ceux qui ne le sont pas. J'en ai fait l'expérience étonnante pour avoir une petite maison isolée dans les Landes. Je l'ai confié à quelques amis parisiens qui n'y ont pas survécu plus de 24 heures. Mais ça ne m'a pas étonné. Puis un jour, j'ai une amie, une écrivain bruxelloise, qui me l'a demandé. Là, j'ai été un peu inquiet parce qu'elle n'a pas le permis de conduire. Et le premier village est à 5 km par des pistes de terre. Donc je me dis, qu'est-ce qu'elle va y faire? Elle y est restée 3 semaines et me la prend toujours, ma maison. Mais elle n'a aucune difficulté à rester seule avec elle-même. Ben Sophie, c'est tout l'inverse. Elle s'ennuie. Elle a peur d'être avec elle-même. Être en contact avec soi. Comme l'enfant hyperactif. Ça démarre comme l'enfant dépressif. Elle met de l'action là où il faudrait de la pensée. Elle n'est jamais criminelle par préméditation. Elle est toujours criminelle par accident. Comme l'enfant hyperactif, dont on dit toujours, mais il est très gentil. Il n'a pas voulu le mal. Non, mais il l'a commis. Mais il n'a jamais prémédité le faire. Ça a toujours été accidentel. Je ne l'ai pas fait exprès. Ah, j'ai cassé la table, je ne l'ai pas fait exprès. C'est parce que j'ai voulu récupérer ce que j'y avais lancé. Etc, etc. Ces enfants qui laissent glisser l'impulsivité parce qu'ils ne peuvent la contenir le font aussi de cette manière-là parce qu'ils ne sont pas suffisamment contenus et rattachés en eux par des figures de sécurité intérieure. C'est le défaut de fonction parentale en eux qui est à l'origine de leur hyperactivité. C'est les deux figures modernes d'ailleurs auxquelles on est confronté dans la clinique. Celle de l'enfant hyperactif, celle de l'enfant dépressif. Vous savez, il y a quelque chose d'étonnant à l'évolution de la psychopathologie. Quand on regarde celle-ci à l'époque de Freud, à une époque largement dominée par l'éthique du renoncement et par l'univers morbide de la faute, pour reprendre l'expression d'Esnard, par l'impeccabilité, l'idéologie de l'impeccabilité, il y avait des pathologies très spécifiques, des grandes névroses de conversion par exemple qui n'existent pratiquement plus, et la paranoïa qui a conduit l'horreur. Aujourd'hui, ces pathologies semblent s'effacer au bénéfice d'autres qui sont les deux figures qui dominent aujourd'hui, la dépression et la perversion. La perversion, c'est la forme adulte de l'hyperactivité dans l'enfance. Ces deux figures marquent la difficulté qu'un grand nombre d'entre nous a à trouver en lui le réconfort de figure parentale. Ça interroge. Autrefois, ces figures étaient beaucoup trop massives et ne laissaient aucune liberté. Aujourd'hui, elles semblent trop poreuses et laisser le sujet face et confronté à lui-même. Alors, comment aider ? Aider à des parents à agir afin de faciliter à l'enfant l'installation en lui de figures pérennes de sécurité. Alors j'ai là 2-3 minutes encore pour vous livrer mes intuitions. C'est pas des certitudes que je vous livre, c'est des intuitions. La première de ces intuitions, c'est que je ne crois absolument pas aux écoles des parents. Parce que je rencontre beaucoup de parents en difficulté ou peu. Des parents qui viennent me voir de façon très cocasse. Par exemple, un père qui vient avec sa conjointe pour me dire l'école nous a dit de venir vous consulter parce que notre enfant est hyperactif. L'enfant a 4 ans. Je lui dis, ah oui, pourquoi il est hyperactif? L'enfant, bien sûr, baisse la tête, tout était baissé chez lui. Je demande aux parents de me décrire en quoi il est hyperactif. Ah ben, il n'obéit pas, me dit le père. Et en quoi il n'obéit pas? Ben, je vais vous donner un exemple, dit le père. Un grand gaillard. Hier, j'ai été chercher au centre de loisirs, le premier, parce que ma femme sortait plus tard. J'ai été le chercher à 5 heures. Et ben, il n'a pas voulu venir. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai négocié, mais il n'a pas voulu venir. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je suis reparti. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, je suis revenu à 19h, me dit le père. Et alors là, est-ce qu'il a voulu venir? Non, il ne voulait toujours pas venir. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai négocié pendant une heure, il ne voulait vraiment pas venir. Finalement, nous avons été mis dehors par les animateurs qui, eux, voulaient partir. Et ça a duré jusqu'à 20h dans la rue avant qu'il se décide à venir. Il ne veut pas obéir, me dit le père. J'aurais dit au père, façon super nanny, Naori, une forme plus élégante que l'autre. Il faut sévir. Le père m'aurait dit oui, j'en suis certain. Mais la question n'est pas pourquoi. Ce qu'il ne sait pas, c'est pourquoi il n'y arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas à faire ce qu'il sait devoir faire. Quand vous regardez cette émission Super Nanny, c'est intéressant parce que la plupart des parents qui regardent cette émission se disent bah oui, elle a raison. Elle a raison, effectivement, on laisse pas un enfant faire n'importe quoi. Mais tous les parents de France et de Navarre le savent. Et même ceux qui ne peuvent pas y réussir à empêcher l'enfant de faire n'importe quoi. Surtout ceux-là, d'ailleurs. C'est qu'ils sont empêchés de le faire. Et leur enseigner comment le faire ne sert à rien. Si on ne s'attarde pas à ce qui en eux leur rend difficile la capacité de le faire. Quelquefois même au contraire, on est contre-productif, parce que quand on veut leur asséner voilà ce qu'il convient de faire, de façon orthopédique, on leur assène en même temps qu'ils sont vraiment incapables. Et se donnant d'eux-mêmes une représentation totalement négative, ils en sont encore plus impuissants à faire quoi que ce soit. Donc, l'enseignement du parent, les écoles de parents, je crois vraiment que ça ne sert à rien. Par contre, ce qui peut aider à évoluer, c'est sortir les parents de l'isolement. Les aider à se parler entre eux, à parler à d'autres parents. Les sortir aussi de leur isolement à parler à d'autres qui ont été parents mais pas nécessairement leurs parents. Or, il y a des réseaux d'échanges qui se meurent dans nos cités. Les parents sont terriblement isolés et cet isolement est un facteur d'amplification. Et enfin, et je terminerai par là, il est aussi question de fonder peut-être nos représentations éthiques qui opposent le bien et le mal sur autre chose que sur les normes d'épanouissement, les exigences d'être aimé. Chacun d'entre nous en tant que parents souhaite être aimé de ses enfants, mais il ne faut pas que le besoin que nous avons d'être aimé de nos enfants prime sur tout le reste, et notamment sur le sentiment de responsabilité. Une éthique de la responsabilité qui ne soit pas comme l'éthique ancienne enlisé dans la culpabilité. Et ça, c'est une chose peut-être auquel il nous faut plus généralement penser, et c'est sur cela que je vais conclure. Merci.
Merci beaucoup pour votre exposé, pour vos connaissances de la psychologie, toujours étayées par des exemples de votre pratique quotidienne. Bon, on a largement dépassé, je crois, nos horaires habituels, mais je pense que personne ne vous en fera reproche. Et je pense que d'ailleurs, vous avez répondu déjà dans l'exposé à pas mal de questions qui se seraient posées dans le débat. Bon, on ne va pas complètement éluder le débat, puisqu'il nous reste un petit moment. Donc, on va peut-être passer directement aux questions. Sans la petite pause de 3-4 minutes qui avait été annoncée. Donc si quelqu'un veut faire part d'une question ou d'une réflexion, je vais essayer d'être un peu claire. Vous avez beaucoup parlé de la relation de la mère, enfin au départ vous avez beaucoup parlé très longuement de la mère et par rapport au bébé. Par rapport à ça, on pourrait se culpabiliser, enfin beaucoup de femmes pourraient se culpabiliser, beaucoup de mères pourraient se culpabiliser quand elles ont des enfants difficiles, psychotiques ou autistes ou autres. Or aujourd'hui votre discours est très psychanalytique, ce qui est bien, enfin je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a aussi le pendant. Aujourd'hui on sait que par exemple l'autisme, il y a des problèmes par rapport au cerveau et par rapport à la structure même du cerveau. Parce que moi, quand j'ai fait mes études, on nous disait l'autisme, c'est le rapport à la mère, la mère, la mère, la mère. Et puis on s'aperçoit 20 ans, enfin 30 ans après, que ben, la mère, elle est certainement pour rien. Et enfin, voilà, je voulais dire que ce que vous disiez pouvait entraîner une culpabilité des mères.
Oui, votre question permettra de préciser deux choses qui sont tout à fait fondamentales. La première, vous avez raison, il y a un certain nombre de troubles psychiques qui ne sont pas liés aux conditions de l'environnement, qui sont sûrement subséquents à des troubles neurologiques, dont on n'est qu'au balbutiement de savoir comment tout ça fonctionne effectivement. C'est pourquoi j'ai précisé qu'il fallait bien différencier fonction et rôle parentaux. Vous avez certains parents qui peuvent être tout à fait compétents et dont l'enfant n'est pas capable de se saisir, n'est pas capable d'utiliser ses parents comme il pourrait le faire s'il avait eu la totalité des moyens et des compétences neurologiques notamment qui échouent à la plupart des enfants. Donc on peut observer des troubles de la relation parent-enfant qui ne sont absolument pas subséquents à un dysfonctionnement parental. Je croyais l'avoir dit, mais ça me permet de le repréciser. C'est vrai de la psychose, de certaines formes de psychose ou d'autisme, c'est vrai aussi d'autres troubles. Vous avez certains enfants qui vont peiner plus que d'autres à s'accrocher aux parents, alors que d'autres, curieusement, peuvent faire très fort avec très peu de parents. Donc ce n'est pas l'état de l'enfant qui est le meilleur des critériums pour s'assurer qu'il a eu de bons ou de mauvais parents. Ça, c'est la première chose. Je connais trop d'enfants qui vont mal psychiquement, dont les parents sont tout à fait compétents, et je connais trop d'enfants qui vont bien alors qu'ils ont eu des parents incompétents, pour me dire que c'est l'impact seul du parent sur l'enfant qui détermine les conditions dans lesquelles l'enfant va grandir. Parce que je vois l'inverse dans les... Et puis il y a un deuxième élément que votre question permet de préciser, que je ne l'ai pas fait, c'est à tort, mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué de ramasser un propos. J'ai parlé de mère, en fait j'aurais dû davantage parler de maternance, parce que la mère n'est pas plus que le père unique. C'est la manière aussi dont l'enfant est entouré, enveloppé, qui est déterminant. Alors bien sûr, la mère joue un rôle essentiel dans cet enveloppement maternant, mais dans cette capacité qu'a la collectivité des hommes de représenter à l'enfant le monde dans lequel il est immergé, pour lui en restituer une forme adoucie, la mère est heureusement pas seule à faire. C'est un enveloppement qui la transcende. Elle est, bien sûr, le vecteur essentiel de cette fonction, mais elle n'est pas le vecteur unique. Et une mère qui ne serait pas elle-même portée par le monde qui l'environne ne pourrait pas porter à elle seule l'enfant. C'est pourquoi l'un des risques majeurs des relations mère-enfant précoces est induit par l'isolement des mères. Aucune mère isolée avec son enfant ne peut être une bonne mère, ça c'est certain. Vous avez en milieu migrant, chez les primo-arrivants, où vous avez un taux d'isolement plus grand, 7 fois plus de dépression du postpartum. 7 fois plus de dépression du postpartum. L'isolement est un facteur de risque. C'est qu'il faut bien différencier le rôle de la mère de la fonction maternance, si vous voulez. C'est pourquoi aussi, je suis convaincu qu'on peut être une mère efficace, remarquable, compétente, même quand on n'est pas la génitrice.
Oui, je crois que vous venez partiellement de répondre à la question que je voulais vous poser. Vous nous dites en effet que l'enfant, si j'ai bien compris, se fait dans le regard de sa mère, grâce au regard de sa mère. Et qu'en est-il maintenant où tant de papas, je ne peux pas dire remplacent, mais enfin s'occupent de leur enfant pratiquement dès la naissance, et quelquefois ils ont davantage de temps, de possibilités que la maman.
En soi, c'est aussi une question qui ouvre sur énormément de prolongements, et on peut être parti jusqu'à 1h du matin. La place des pères, les pères, mères, etc. Alors, ils peuvent faire la même chose, mais ne pas être pourtant les mêmes. Et la fonction maternante est une fonction dont la mère est vecteur, mais dont le père ne sera jamais le vecteur. Ce qui fait l'originalité, et c'est naturel qu'il en soit ainsi, du rapport de la mère, même quand elle n'est pas la génitrice, à l'enfant, et du rapport du père à l'enfant, c'est que dans un cas, le rapport et la relation est initié par le verbe, dans l'autre cas, il est initié par la sensation. Le père appréhende l'enfant comme un autre, comme il s'appréhende lui-même comme dépendant du verbe qui le fait père. Pour être le père, il faut que quelqu'un vous ait assigné le fait que vous l'étiez. Vous n'avez aucune sensation du lien qui vous lie à l'enfant. La mère est dans un rapport de continuité sensorielle avec l'enfant. Et pas uniquement du fait de la gestation. C'est aussi le fait qu'il y a des différences entre des femmes, pour quelque temps encore. Et parmi ces différences, il y en a une dont on doit mesurer l'impact psychique, c'est que l'homme n'a en lui aucune sensation qui authentifie en lui, qui différencie en lui la procréation de l'orgasme. La femme, c'est en elle le pouvoir de procréer indépendamment du plaisir sexuel. C'est son cycle. Il n'y a pas d'équivalent chez l'homme. L'avènement du cycle est un avènement important, fondamental, dont les femmes se souviennent très longtemps, qui prend des allures tout à fait importantes chez les petites filles. J'en veux un témoignage. Une petite fille a coincé entre deux rives, à tous les niveaux, au niveau des apprentissages, au niveau de la maturité, à tous les niveaux, elle est coincée entre deux rives, au niveau physique. Elle a 15 ans, elle est en quatrième, donc elle tarde un peu quand même. Elle prend son temps. Et elle le prend à tout point de vue. Donc elle a eu aussi tardé à avoir un cycle. Un jour, elle est arrivée, elle m'a dit, oh, tu sais, ça m'est arrivé. Alors je lui ai dit, quoi? J'ai joué l'homme un peu rustre. Alors elle me dit, mais tu sais, j'ai dit, non, je ne sais pas, là j'ai vraiment joué l'homme rustre. Elle me dit, mais j'ai saigné. Ah, je lui ai dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle m'a raconté avec délectation les douleurs qu'elle avait eues. Et qu'elle avait dû dire à son prof de gym qu'elle n'irait pas à la piscine. Alors lui, qui est aussi un garçon et un peu rustre, comme tous les garçons, lui a dit, mais pourquoi mademoiselle? Elle a dit, parce que. Elle a joué la femme triomphante. et lui a répondu, ah bon, il a vraiment joué l'homme rustre, ce qui lui a plu beaucoup parce qu'elle est bien sûr un peu amoureuse de son prof de gym. Donc elle me racontait ça avec une délectation et vraiment quelque chose de très sympathique. À la fin de la rencontre, elle me dit, tu sais, maintenant il faut que je fasse attention. Je lui dis, à quoi? Elle me dit, il faut que je fasse attention parce que maintenant quand j'ai mon cycle, il ne faut pas que j'embrasse les garçons. Alors je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que grand-mère, elle est éduquée par sa grand-mère, ce qui explique peut-être pourquoi elle a du mal aussi à franchir les rives. Elle me dit, parce que mamie m'a dit que quand on avait son cycle, on rencontrait des garçons, on pouvait tomber enceinte. Elle a compris les choses bizarrement. Ça ne marchera pas très bien chez elle, la méthode. Et en même temps, je me dis que psychiquement, elle a compris quelque chose de fondamental. C'est le fait de son cycle qui la faisait advenir au monde où elle pouvait devenir mère. Elle était maintenant un corps qui pouvait procréer. Il n'y a rien d'équivalent chez le garçon. J'ai croisé des obsessionnels, des grands obsessionnels, des tocs et des tics, autant que vous en voulez. Mais aucun d'eux n'a jamais été capable de me dire le mois ou l'année où il a eu son premier orgasme. Ou alors, il est vraiment très obsessionnel. Un homme est même en grande difficulté de vous dire et de vous situer l'année où c'est arrivé. Selon l'âge, on situe cela plus ou moins précocement. Alors quand on est très jeune, on situe cela très précocement. Puis avec le vieillissement, on a tendance à retarder. Sauf quand on est méditerranéen, où là on a toujours tendance à penser que c'était très tôt. Mais enfin, personne n'en fait une date fondatrice. On n'est pas transformé par sa capacité à la jouissance. On advient à une autre nature avec le cycle. Ce rapport à l'enfant est naturellement déterminé par le rapport au corps chez la mère. Il est fondé par le verbe chez le père. Le père advient en tant que père parce qu'il lui est dit qu'il est le père. Sa femme le lui dit et lui est sympathique, il veut bien y croire. Mais c'est toujours un acte de foi, la paternité. Et ça donne à la relation à l'enfant une disparité totalement différente et complémentaire. Il peut y avoir similitude des tâches, et il est souhaitable qu'il y en ait. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une différenciation des tâches. On n'est pas empêché d'être père parce qu'on donne le biberon. On n'est pas empêché d'être père parce qu'on donne l'ange son enfant. Enfin, on lui met des couches, ceci dit, je remarque que les pères le font depuis qu'on a trouvé les changes jetables. Maintenant qu'on revient aux changes qui se lavent pour des soucis d'écologie, je ne sais pas s'ils vont contribuer autant qu'ils le faisaient. Enfin, il peut y avoir similitude des tâches, ce n'est pas pour autant que ce sont les mêmes. Et la fonction paternelle est bien différenciée de la fonction maternelle.
Bon, les impératifs de l'heure étant ce qu'ils sont, on va prendre une dernière question, je pense. Bonsoir. Je voulais vous poser une question par rapport aux parents maltraitants. Je voulais savoir quand un enfant avait subi donc des violences que, pour aller jusqu'au pire en parlant d'abus sexuels et qu'il a dénoncé donc le parent abuseur, comment l'enfant se reconstruit par rapport au couple parental, à savoir peut-être que l'un a abusé de lui et que l'autre a été complice en ne faisant pas cesser ses agissements ou en faisant comme s'il les ignorait, et comment l'enfant, est-ce que cet enfant-là peut estimer qu'il a des parents ou est-ce qu'il est dans un renoncement par rapport à ses parents biologiques du fait d'avoir été objet? Est-ce qu'il peut un jour renouer des liens de confiance, d'estime par rapport à... Est-ce que le parent peut changer aussi? Enfin, je me posais la question de cette triangulaire, entre guillemets, enfin, par rapport à l'enfant, au maltraitant et au parent qui n'a pas agi par rapport à cette relation-là de maltraitance.
Il y a deux questions dans votre question. Il y a la question de la reconstruction. Alors, je n'aime pas trop le terme de reconstruction parce que... Mais j'en vois bien l'idée. Alors, bien sûr, il faut tordre le cou à cette idée qu'on ne survit pas à un traumatisme aussi effrayant quel qu'il soit. L'histoire de l'humanité est là pour nous administrer la preuve inverse. L'humain a une capacité à résilier le pire qui est quand même collectivement et individuellement remarquable. Et c'est heureux. Toutes nos histoires sont des histoires traversées par des chocs, des heurts, des guerres, des horreurs. Moi j'ai la chance du fait d'une histoire familiale totalement chaotique d'avoir des origines chrétiennes, juives et musulmanes. Ça pourrait me donner de quoi être fou, j'en tire de quoi être psychanalyste, vous voyez. Il n'y avait pas d'alternative possible. Bon, les histoires de... Non, je crois... On peut pas... Il n'y a rien de pire que de prédire à un enfant le pire du fait d'un traumatisme dont il aurait été subi victime. Il faut au contraire croire beaucoup qu'il peut s'en sortir et qu'il en sortira pour pouvoir l'y aider. Donc, ça suffit d'attacher à la maltraitance dont un enfant est victime, un délabrement dont il ne sortirait pas. Il peut en sortir, bien entendu. Et il en sortira, et ils en sortent le plus souvent. Maintenant, il y a une autre question, c'est est-ce que ses parents peuvent être restaurés en tant que parents ? C'est pas la même chose. Vous pouvez avoir des enfants qui se reconstruisent en renonçant totalement à leurs parents comme des figures de sécurité intérieure, et d'autres qui y peinent parce que justement ils maintiennent leur croyance en la capacité de leurs parents à être des figures de sécurité intérieure. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même question. C'est pourquoi je vous dis, il y a deux questions dans votre question. Alors, est-ce que les parents peuvent être restaurés comme des garants de sécurité intérieure? Ça dépend de l'importance de la maltraitance. Mais dans des maltraitances sévères, bien sûr que non. Et notamment dans le cas d'agression sexuelle, non. Le père s'est disqualifié en tant que père. Ce qui est très compliqué à l'enfant, c'est qu'il peut avoir en même temps qu'il a une mémoire de confrontation à un parent terrible, la mémoire d'une confrontation à un parent qui a pu être tendre. Et c'est l'ambivalence qui le lie à ce parent qui lui est douloureuse, comme tout conflit d'ambivalence. Quelle qu'en soit la forme d'ailleurs, parce que le conflit d'ambivalence, c'est pas le sentiment d'ambivalence. Le sentiment d'ambivalence, c'est une ambivalence consciente. Le conflit d'ambivalence, c'est quelque chose d'inconscient. Un enfant très haineux, comme je le vois parfois, de ses parents bourreaux, je pourrais me dire, il est libéré, puisqu'il est haineux. Et justement parce qu'il est haineux, je sais qu'il n'est pas libéré. Et qu'il est toujours dans un conflit d'ambivalence énorme qui l'oblige à maintenir toujours très fort la haine qu'il éprouve parce que ça lui permet d'éloigner la tendresse qu'il ressent. Et quand les gens s'acharnent à vouloir haïr, c'est qu'on lit très fort en eux, comme dans les pièces de Molière, vous savez, où l'amante est trahie par l'amant, qu'ils peuvent être attachés à ceux qui nous disent arborer. Et c'est ça qui est très douloureux à l'enfant, c'est le conflit d'ambivalence. Maintenant, la capacité du parent à être restauré en tant que tel est vraiment liée à la nature de la maltraitance. Vous avez certaines maltraitances qui sont incompatibles avec une figure parentale de sécurité intérieure. Et vous avez certaines transgressions. Ça ne veut pas dire que je rejette ses parents dans le côté du monstrueux. Je n'aime pas non plus les gens qui réduisent... les auteurs d'actes monstrueux à des figures monstrueuses. C'est trop commode. Nul ne peut être réduit aux actes qu'il a pu poser. Mais pour autant, dans la dynamique de la relation qu'il y a parent à un enfant, ils sont disqualifiés en tant que parents.
Merci beaucoup. Il nous reste à vous remercier, M. Bourekba, pour cette dernière soirée du Narcisse.